Mais c'est comme si, à la fin, on ne trouvait pas ce qu'on recherchait réellement. Et dans cette série, on a vu que le roi Salomon, dans la Bible, a entrepris la même recherche que ce petit Pac-Man dans l'histoire. Il voulait savoir qu'est-ce qui pouvait satisfaire ce petit sentiment de manque. Donc, les deux derniers dimanches, on a vu qu'il s'est lancé dans la poursuite de la connaissance, par exemple. Pour son époque, il est devenu une Wikipédia vivante. Il s'est aussi lancé dans la recherche du plaisir. Par exemple, il a investi dans la nourriture de qualité. Juste comme curiosité, la Bible dit que chaque jour, pour la consommation de toute la cour de Salomon, les conseillers, les hauts fonctionnaires, les collecteurs d'impôts, les musiciens, les scribes, les responsables du bétail, les cuisiniers, ses nombreuses femmes, ses enfants ont consommé 1300 litres de farine, 30 bœufs, 100 brebis et des cerfs ou des gazelles et des volailles. Il a aussi recherché le plaisir dans des boissons alcoolisées, il s'est acheté des beaux habits pour se faire plaisir, il a investi dans des artistes de qualité pour se distraire et il a beaucoup investi pour sa satisfaction sexuelle aussi. Et il écrit, la prochaine diapo, « Je me suis donné tout ce que mes yeux désiraient. Je n'ai privé mon cœur d'aucun plaisir. » Même avec ses conquêtes au niveau intellectuel et au niveau du plaisir, il a écrit que ça ne lui a pas complètement satisfait à la fin. Il se disait toujours à la fin, « Oh, mais il est où mon petit bout? Mais où il est? Où est-il mon petit bout ?» Donc, il y a encore un troisième domaine où il a dépensé beaucoup d'énergie pour découvrir si ça pouvait le rendre pleinement satisfait. Et c'était de grands projets. Dimanche dernier, j'étais sur la place du château avec mes enfants et ils ont installé, probablement pour le tour de Romandie, un cône avec des robinets. Et mes enfants se sont lavés les mains là-bas et puis ils ont eu l'idée, ça tombait sur le sable, ils ont eu l'idée de faire un chemin pour dévier l'eau et créer un canal qui l'amènerait jusqu'à la grille d'égout. Et ils ont eu tellement de plaisir à faire ce chemin et puis à faire le canal et puis que l'eau puisse aller jusqu'où ils voulaient aller. Ça leur a fait plaisir de creuser, de guider l'eau. Ils ont pris beaucoup de temps là-dedans. Et je me suis dit, imagine la satisfaction de terminer un de ces projets pour de vrai. Ça apporte déjà de la satisfaction de monter des Legos. Mais ceux qui peuvent diriger un grand projet, construire quelque chose pour de vrai, une maison, un canal, un barrage, une fusée qui peut faire le tour de la Lune et revenir. Puis à la fin de ce projet, l'avoir réussi jusqu'au bout, je pense que l'équipe doit être très fière d'elle-même d'avoir réussi un projet de cette ampleur. Ma nièce Lara devait faire un projet pour la fin de sa 11e. Puis elle s'est lancée dans l'idée de construire une carte du monde en bois avec les bonnes formes de chaque pays découpées sur le bois. C'était un immense travail. Du coup, voici quelques images du résultat. Là, ça prenait toute cette planche, la carte du monde. Elle a pris le temps de peindre, elle a consulté des experts. Là, c'était pour l'électricité, parce qu'elle voulait que ça illuminait par derrière. La carte du monde, elle a découpé chaque petit morceau. Là, c'était pour souder le LED. Ensuite, voilà, elle découpait chaque petit pays du monde, elle a dû apprendre à utiliser cette machine, elle a peint, c'était en binôme, mais j'ai jamais vu sa copine. Hein. Toutes les photos, elle est toute seule. Voilà, du coup, et le résultat final. Ils ont mis au salon, aussitôt qu'on entre à la maison de mon frère, c'est cette grande carte du monde qui est illuminée le soir. Et puis, il y a encore une photo, voilà. C'est un travail extraordinaire et vous pouvez imaginer que ça apporte un sentiment de fierté, non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille. Et pourtant, elle fait l'école de commerce maintenant, il n'y a rien à voir avec le découpage de bois, par exemple. Quelqu'un a même proposé de l'acheter, mais on est surtout ne le vend pas. Vous voulez donner 800 francs, j'ai dit ça vaut beaucoup plus que 800 francs, toutes ces heures que tu as passées à découper et à faire ce tableau. Et c'est pour ce sentiment-là de réussite qui est très positif que Salomon s'est lancé. La Bible dit, par exemple, il a entrepris de grands échanges commerciaux avec Hiram, le roi de Tyr. Et Il envoyait aussi ses bateaux avec les bateaux de Hiram. Il avait des navires marchands qui naviguaient avec celui de Hiram, ceux de Hiram. Et puis il revenait tous les 3 ans, après avoir fait du commerce, il revenait avec de l'or, de l'argent, de l'ivoire, mais aussi avec des singes et des pains. Ok. Comme les affaires allaient bien, du coup, il a engagé des milliers d'ouvriers pour lui construire, c'est la prochaine image, un grand palais. C'était un ensemble de 5 bâtiments et qui a pris 13 ans pour être fini. Et il a aussi construit le premier temple. Ça, c'est aussi un grand projet. C'est un rêve que son père avait eu et qu'il n'avait pas été capable d'accomplir, son papa. Et lui, il l'a accompli. En plus, il avait d'autres biens. Il a importé 12 000 chevaux d'Égypte et d'autres régions. Il a construit 4 000 stalles pour les chevaux et il a acheté 1 400 chars de guerre. 1 400. Juste comme comparaison, en 2023, la Suisse en avait 134. Bon, ce n'est pas les mêmes chars. Hein. C'est un peu plus développé quand même. Salomon gardait une partie des chars à Jérusalem et les autres dans les garnisons en certaines villes qu'il a fait construire. Il avait 550 responsables de chantier. Le chantier total du palais plus du temple a duré 20 ans. Il a planté des jardins avec toutes sortes d'arbres fruitiers dans les terres arides du Moyen-Orient. Il a fait des techniques de réservoir pour stocker de l'eau, pour pouvoir arroser toutes ces plantes. Du coup, il a vraiment réalisé beaucoup par ses propres efforts. La prochaine image montre le complexe de bâtiments. Et cela lui a apporté aussi de la fierté. Donc, pour l'inauguration du temple, il a fait une immense fête pour inaugurer le temple. Ils se sont rassemblés pendant 14 jours pour fêter. Et il s'est aussi senti fier, pas seulement d'avoir réalisé ce projet, mais d'avoir réalisé le rêve de son père. Ça, c'est aussi un sentiment de fierté. Et puis, il écrit comme ça, il dit, dans l'inauguration du temple, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui de sa bouche a parlé à mon père David et qui accomplit par la puissance ce qu'il avait déclaré. » C'est la prochaine. « Je me suis élevé à la place de mon père David » et me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai construit cette maison en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc vous voyez ce bon sentiment de fierté d'avoir pris un projet et puis l'avoir réalisé jusqu'au bout, et en plus le rêve de son papa. Et c'était pour glorifier Dieu, le temple, c'était pour glorifier Dieu, du coup c'était aussi un très bon projet. La recherche du plaisir ne l'avait pas amené au bon chemin voulu par Dieu. Il a fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Mais diriger de grands projets, c'était plutôt bien. On a l'impression que c'était plutôt bien. Et même comme ça, proche de sa vie, il écrit comme ça dans Ecclésiaste. « Mon cœur était réjoui par tout mon travail et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis, j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. » Vous allez voir, il ressemble dans ce texte à un homme déprimé. Il va expliquer pourquoi il se sent comme ça. On est toujours dans Ecclésiaste 2 et il continue. « Tout ce qui arrive est oublié dans les jours qui suivent. Le sage meurt tout comme le sot et les hommes ne se souviennent pas plus de l'un que de l'autre. » Pourquoi en est-il ainsi? Alors j'ai été dégoûté de la vie. J'ai détesté toute la peine que j'avais prise ici-bas, puisque je devrais abandonner mes réalisations à celui qui me succédera. Se comportera-t-il en homme sage ou en sot? Qui peut le savoir? Pourtant, il disposera de tout ce que j'aurai acquis ici-bas par mon travail et ma sagesse. Encore de la fumée, sans lendemain. L'idée que j'avais tant travaillé ici-bas m'a conduit au bord du désespoir. Salomon avait poursuivi cette idée, je vais trouver ma partie manquante. Il a essayé avec la connaissance, ça n'a pas marché. Il a essayé avec toutes sortes de plaisirs, ça n'a pas marché. Il a essayé avec des grands projets, ça n'a pas marché. Alors c'est pour ça qu'il se sent aussi malheureux. Et puis il continue à écrire sur les grands projets. Un être humain travaille avec sagesse, compétence et succès. Et voilà qu'il doit abandonner ses réalisations à quelqu'un qui n'y a pas travaillé. C'est de la fumée sans lendemain, une grande injustice. Dans ces conditions, quel intérêt les humains ont-ils à se donner de la peine pour réaliser ce qu'ils désirent faire ici-bas? Leur occupation ne leur apporte que soucis et tracas quotidiens. Et même la nuit, leur esprit n'a pas de repos. Encore une fois, c'est de la fumée sans lendemain. Voilà ce qu'il en retire au début de son livre. Il sera plus positif à la fin, mais au début, il retire ça. La semaine dernière, on a vu que C.S. Lewis, en réfléchissant à ça, il s'est dit que pour tout désir humain, il y a un correspondant. Par exemple, j'ai soif, du coup, il y a de l'eau. Ça peut combler ce besoin, ce désir. J'ai sommeil, il y a quelque chose qui s'appelle dormir. Je peux combler ce désir-là. Je me sens seul, il y a quelque chose appelé des relations humaines. On peut discuter avec quelqu'un et puis assouvir ce désir. Je me sens triste, ça existe quelque chose qui s'appelle des larmes pour pleurer et pour aider à faire passer. Donc il arrive à la conclusion, si on ressent quelque chose que rien dans le monde peut satisfaire, alors très probablement le correspondant de ce désir n'est pas de ce monde. Si je sens quelque chose et que rien de ce monde peut le satisfaire, ce qui peut le satisfaire n'est pas de ce monde, ça vient d'un autre monde. Et j'aimerais citer trois exemples de personnes qui ont expérimenté ça, qui ont dit comment ça fonctionne de pouvoir vivre dans ce monde, accomplir de belles choses, mais trouver la partie manquante ailleurs que dans ce monde. La première personne, c'est le maître des maîtres, Jésus. Jésus a dit comme ça, ma nourriture, du coup, il voulait dire ce qui satisfait, ce qui enlève la faim intérieure, ce qui complète le petit bout manquant, et il continue, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc dans la Bible, on voit que Jésus profitait de la vie, il a participé à de bons repas, il a bu du vin, il avait de l'humour pour répondre quand les gens posaient des questions. La Bible dit qu'il a cherché à grandir en connaissance, qu'il s'est aussi développé dans son corps. Il avait de bons amis proches de lui. Les besoins humains restent et resteront toujours. Et il y a beaucoup de bons moyens pour les satisfaire. Mais différemment de Salomon, il n'a pas cherché à être complet par ces choses-là. Regardez ce prochain verset qui dit « Et Jésus grandissait, donc il se développait dans son corps. Il progressait en sagesse, donc il cherchait à connaître. Et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. » Salomon, il avait laissé de côté cette partie à la fin de sa vie, se rendre agréable à Dieu. Il s'est appuyé uniquement sur sa sagesse pour lui dicter ce qu'il devait faire. Et ça l'a éloigné de Dieu et ça l'a amené au désespoir. J'ai un ami de l'époque de l'école, c'est le seul avec qui j'ai gardé un contact régulier jusqu'aujourd'hui. Un brillant élève, brillant. Avant le secondaire, je pense qu'on était en 4H ou 5H, l'équivalent au Brésil, il avait vu pratiquement tous les documentaires des animaux. Et puis, il mémorisait tout, il savait tout. On demandait, ce qu'on voulait sur les animaux, il savait. Un jour, un ami avait été mordu par une bestiole à la mer. Et puis, j'ai dit le lieu où il avait été mordu, j'ai dessiné la morsure qui était dans sa jambe. Il a dit, c'est cet animal, c'est sûr, cette région, cette morsure-là, c'est cet animal-là. Il savait des choses comme ça. Puis il a fait un master avec les baleines à bosse au Brésil, il est allé les étudier. Il a travaillé dans un zoo à Brasilia, la capitale, et puis il est allé étudier les zoos de San Diego aux États-Unis. Il est venu en Suisse pour étudier le zoo de Zurich avec leur politique de réintroduction dans l'habitat naturel, de répopulation, de faire reproduire et ensuite les remettre dans la nature. Et il avait tellement de projets, il est tellement passionné par les animaux et par le bien-être animal. Et au fil des années, ça l'a détruit, le fait de voir qu'il voulait tellement changer les choses, il voulait tellement sauver les choses qui n'allaient pas, les forêts, les habitats naturels. Il voulait implanter des choses dans le zoo du Brésil où il travaillait pour que ça soit aussi bien que ces zoos-là qui ont cette vision de réintroduire les animaux dans la nature. Et beaucoup de ces idées n'ont pas été prises. finalement, il a commencé à sombrer chaque fois plus dans une dépression plus grande. Ça ne va jamais changer le monde naturel. J'ai tellement envie de les protéger, de sauvegarder ces espèces, et puis on ne va jamais réussir. Et puis ça l'a plongé dans une grosse dépression, malheureusement, toujours là, en ce moment. Récemment, je l'ai écrit, et puis de nouveau très triste. Je dis, ouais, de nouveau chez mes parents, plus de perspective, j'ai plus envie de rien faire. Et voilà, j'ai plus de but dans ma vie, vu que tout ce que j'ai entrepris, je n'ai pas réussi pour le bien-être animal. Il a tout misé sur ce bon projet, mais peut-être en ayant des espoirs trop élevés qu'il pourrait sauver le monde animal. Au niveau des grands projets, la deuxième personne qui est un bon exemple, c'est le père de Salomon, David. Parce que David avait voulu, lui, construire un grand temple. C'est lui qui a eu cette première idée, mais Dieu lui avait dit non. Et regarde ce qu'il dit dans le psaume 131. Il dit, « Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop élevé pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et dans le calme. Je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. Israël, mets ton espérance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. » Au lieu de vouloir à tout prix se lancer dans les grands projets qu'il avait eu envie de réaliser, il a préféré se reposer en Dieu, mettre son espérance en lui, et il a trouvé la satisfaction. Salomon dans Ecclésiaste 2 dit que même le soir, il n'arrivait pas à dormir, tant les projets le tracassaient. Et David, il s'est senti comment ? Désespéré aussi ? Non, rassasié comme un nourrisson dans les bras de sa mère, apaisé. Et le troisième exemple de quelqu'un qui a réussi à trouver ce petit bout manquant en Dieu. Une fois, on est venu en Suisse en vacances, et puis j'ai un ami facteur au Brésil qui a 20 ans de plus que moi, et il avait bien économisé pour pouvoir venir. Il voulait d'abord aller en Allemagne, parce qu'il avait eu des pasteurs méthodistes qui avaient travaillé au Brésil. Il avait rencontré Jésus là-bas, dans une église méthodiste. Ils avaient pris leur retraite, ils étaient retournés en Allemagne. Puis ensuite, il est venu en train en Suisse pour aussi connaître la Suisse, vu qu'on était là, moi et mes parents. Et il est arrivé, il était enchanté, tant par l'Allemagne comme par la Suisse. Il a dit, waouh, l'organisation, la propreté, le salaire correct de tout le monde, l'habitation qui est bien, la nature, l'honnêteté, la sécurité. Il a dit, Thierry, tu t'en rends compte ? J'avais ma valise lourde. On est arrivé vers 3 heures du matin. J'étais en train de la tirer comme ça. C'est normal et ça faisait du bruit. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il a dit, hé, Ivan Ildol, tiens ta valise, ça va déranger les voisins. Déranger les voisins, je devais porter cette valise. Je dis, c'est pas possible qu'il se préoccupe plus des voisins qui allaient entendre cette valise que moi que je devais porter cette valise lourde dans mes bras. Pour lui, c'était... Comment ça, tu peux te préoccuper autant des voisins ? Et il a demandé, mais pourquoi, un jour au petit déjeuner, il a demandé à mes parents, pourquoi vous avez quitté la Suisse pour aller au Brésil ? Parce que sa vision du Brésil était comme ça, c'est pas du tout la même que j'ai, mais sa vision c'était, les bus ont du retard, il y a des poubelles dans les rues, certaines villes ont peu de verre, il y a la peur de se faire voler, les voisins sont bruyants et puis s'en fichent. On travaille 44 heures et le salaire va pour combler les besoins de base. Il ne nous reste rien à la fin pour économiser, pour essayer de faire des projets. Pourquoi changer la Suisse pour le Brésil ? Il a demandé à mes parents. Et puis, je ne sais plus si c'est mon père ou ma mère qui a répondu dans ce petit déjeuner. Ben, Dieu nous voulait là-bas. Et ils ont dit, tout simplement comme ça. Et ils ne sont pas du tout malheureux, ils sont toujours là aujourd'hui. Même maintenant à la retraite, ils sont contents, ils sont en paix. Et pour l'instant, ils ne se voient pas retourner ici. Un peu comme Jésus a dit, ce qui me nourrit, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas les choses que la Suisse peut me donner. Ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté que Dieu, de celui qui m'a envoyé. Dieu nous voulait là-bas, c'est ce qu'il a répondu. Et après, en privé, du coup, cet ami m'a dit, pour moi, ce couple allemand qui était parti au Brésil et tes parents sont le meilleur exemple de l'amour de Jésus. Parce qu'ils ne se sont pas attachés au confort et à la sécurité, tout ce qu'ils pouvaient construire dans une vie ici, en Europe, mais ils ont tout laissé pour être dans l'inconfortable, pour être proche des pauvres et des faibles. Et ça l'avait beaucoup touché, l'exemple de ces deux couples de pasteurs qui étaient partis. Et toi, en quelle expérience humaine tu cherches à être complet ? Peut-être dans les loisirs, dans les connaissances, dans un projet. Vis ces choses, mais sans espérer d'elles ce qu'elles ne peuvent pas offrir. En fait, les expériences humaines sont remplies de sens quand on les vit avec la perspective de Dieu et dans le cadre qu'il a établi. Là, ça prend tout son sens. C'est ce que Salomon a découvert au bout de ce parcours. Je termine avec sa conclusion du livre d'Ecclésiaste. Vous verrez qu'il n'est pas aussi pessimiste qu'au début du livre, mais plutôt optimiste. Il a dit, « J'ai reconnu que si un homme mange, boit et prend plaisir dans tout ce travail, son travail, c'est un cadeau de Dieu. Donc va manger ton pain dans la joie, boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment, tes habits soient blancs. » Tu vois, lui aussi, il aimait les habits avec l'odeur de lessive. « Et que l'huile ne manque pas sur la tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie. » Regardez bien qu'il a dit « la femme que tu aimes », pas « les femmes que tu aimes hein. ». Toute la durée de ta vie. « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts là où tu vas. » Écoutons la conclusion de tout ce discours. « Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. » En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Donc sa conclusion est « Profite de la vie tout en craignant Dieu et respectant ce qu'il te demande. » C'est ça qui peut compléter le petit bout manquant. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la vie de Salomon et pour finalement toutes les galères qu'il a vécues pour qu'on puisse apprendre quelque chose aujourd'hui. Seigneur, cette recherche d'une vie pour se sentir complet, comblé aussi dans son cœur. Et d'avoir recherché dans beaucoup de bonnes choses et à la fin, il n'a pas réussi à le compléter. Et il a compris quelque chose, peut-être en fin de vie, qu'en te mettant aussi comme partie de tous nos projets, toutes nos idées, nos envies, ça apporterait plus de sens et ça nous compléterait. On pouvait profiter des choses de cette vie. Seigneur, on pouvait chercher à connaître plus, profiter des bons plaisirs, avoir de bons projets, Seigneur, mais en te incluant à chaque fois, Seigneur, dans nos décisions, Seigneur, dans le cadre aussi que tu as stipulé pour chacune des activités de la vie. Seigneur, et là, ça portera du sens. On a envie de le vivre, ça, dans nos semaines. Ne pas faire d'abord ce qu'on a envie de faire et ensuite t'inviter, mais faire l'inverse, t'inviter et avec toi décider ce qu'on pourrait faire de nos journées, de nos semaines et de notre vie. Amen.